En 1997, sortait le film d'animation Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, immédiatement plébiscité tant par la critique que par le public du monde entier pour sa subtilité et sa représentation non manichéenne du conflit qui oppose d'un côté le monde industriel extractiviste des hommes et de l'autre le monde animal. Le film compte l'histoire d'Ashitaka, un jeune homme en expédition et qui se retrouve pris dans la guérilla menée par la princesse Mononoke, une humaine misanthrope élevée par des loups, protectrice de la forêt ancestrale et de ses esprits animaux chapeautés par le dieu Cerf, contre le village des Forges, dirigé par une femme à l'apparence cupide et déterminée, Dame Eboshi. L'objectif de Dame Eboshi est clairement d'exploiter l'ensemble des ressources naturelles alentour en venant à bout du dieu Cerf, afin de prendre le contrôle de la forêt. En dépit des efforts d'Ashitaka pour servir de médiateur entre les hommes et les animaux, le conflit escalade jusqu'à ce que Dame Eboshi finisse par tuer le dieu Cerf d'un coup de fusil. Le film de Miyazaki s'inspire explicitement de la cosmologie animiste. La princesse Mononoke, sa famille de loups, les sangliers parlants, le dieu Cerf, etc. représentent tous cette cosmologie dans le film. A l'inverse, Dame Eboshi et le village des Forges, qui tiennent lieu des riches sociétés des pays du Nord, représentent la cosmologie naturaliste, c'est-à-dire la nôtre. L'anthropologue Philippe Descola, que nous avions déjà évoqué ensemble dans un de nos épisodes, distingue dans son ouvrage « Par-delà nature et culture » publié en 2005, quatre grandes familles de cosmologie humaine, quatre grandes façons de voir le monde. La cosmologie totémiste, la cosmologie analogiste, la cosmologie animiste et la cosmologie naturaliste. La cosmologie animiste et la cosmologie naturaliste sont symétriquement opposées. L'animisme pose que toute entité partage la même intériorité, mais a un corps et des perceptions spécifiquement différentes. Dans Princesse Mononoke, les animaux peuvent parler, penser, réfléchir et se comprendre avec d'autres espèces, les humains y compris. En revanche, ils ont des corps et des perceptions singulières. La princesse Mononoke essaie d'agir comme un loup, tout en ne pouvant jamais véritablement adopter le corps d'un loup, la perception des loups. Le naturalisme, à l'inverse, présuppose que tous les corps sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils obéissent aux mêmes lois physico-chimiques, aux mêmes mécanismes naturels, tandis que seule une espèce dispose d'une intériorité, l'espèce humaine. C'est dans cet esprit que l'on dissèque des grenouilles pour avoir une idée miniaturisée d'un certain nombre de lois qui s'appliquent au fonctionnement du corps humain, par exemple. On présuppose que tous les corps naturels, tout ce qui est matériel, fonctionne de manière causale et uniforme. Si vous ingérez du sucre, votre foie va réagir d'une certaine manière, comme chez tous les animaux qui disposent d'un foie. Cette cosmologie, c'est donc celle de la science moderne, et qui nous a permis de contrôler les phénomènes naturels. Knowledge is power, la connaissance permet de se rendre maître des processus naturels, d'éduquer son chien et de dresser certains animaux. À titre personnel, lorsque j'ai vu Princesse Mononoke pour la première fois, je n'ai pas seulement été séduit par la maîtrise de sa réalisation, mais encore et surtout par l'inconfort volontaire dans lequel Miyazaki nous place en tant que spectateur occidental. Car ce n'est pas uniquement le vague sentiment de culpabilité à la vue de l'ampleur des destructions causées par le capitalisme extractiviste qui est inconfortable dans le film, c'est surtout la prise de conscience de mon propre cynisme et scepticisme face au rapport entre la princesse Mononoke et les animaux de la forêt qui m'a mis dans l'inconfort. Les animaux dans le film parlent et possèdent un esprit semblable à celui des hommes, ils sont souvent divinisés, en témoigne ainsi le dieu Cerf, esprit majeur de la forêt, sans lequel elle ne pourrait exister. Ce traitement peut être en première approche jugé naïf, anthropomorphique, voire New Age, comme celui des films Avatar de James Cameron. Or, c'est sans doute précisément ce réflexe de mépris que le film interroge en creux. En effet, nous le regardons avec les lunettes de notre cosmologie, sans forcément comprendre qu'il relève pourtant de la cosmologie animiste. Nous appliquons des règles qui valent dans notre système de croyances, de pensée et de valeurs, au système de pensée animiste. Dans notre cosmologie, nous n'entretenons avec la nature qu'un rapport souvent fonctionnel, spéculatif ou récréatif. Faire parler des animaux y relève donc naturellement d'un anthropomorphisme naïf. Et ça l'est sans doute dans une certaine mesure. Mais c'est aussi notre présomption à pouvoir dire ce qui relève des facultés humaines et ce qui n'en relève pas, sur la base de la présence ou non du langage par exemple, qui doit être interrogée. Considérer par exemple que si les animaux ne parlent pas ou n'ont pas de conscience, cela signifie qu'ils ne possèdent pas de plasticité, d'intelligence évolutive ou pour les plus complexes, toute forme de caractère et d'intériorité, bref, qu'ils deviennent de simples machines, n'est pas démontré mais simplement postulé. C'est une croyance et non un savoir scientifique. Une croyance qui montre comment un certain rapport au monde vivant et naturel est entretenu par une certaine vision de la science. Dans la cosmologie naturaliste, la nature est un simple système de cause à effet, une machine muette dont la science pourrait faire le portrait total, une vision qu'on dit donc parfois désenchantée. Mais cette vision, ce n'est pas un prérequis de la pratique scientifique. La pratique scientifique ne présuppose pas en elle-même d'adhérer à une certaine vision du monde ou à une cosmologie. Faire des expériences pour comprendre les corps vivants, par exemple, ça ne veut pas dire considérer que tous les corps vivants en soi sont de pures et simples machines, au sens où ils apparaîtraient ne pas avoir d'histoire, pas de milieu, pas de plasticité. A l'inverse, un certain nombre de biologistes, d'écologues et de philosophes des sciences considèrent qu'on ne peut pas complètement faire l'économie de notions comme la plasticité, la résilience et l'historicité des êtres vivants, et que les modèles mécanistes du vivant sont donc limités. En d'autres termes, et sans prêter au vivant des qualités mystiques, spirituelles, surnaturelles, finalistes, divines, etc., il est en même temps urgent de ressaisir sa complexité réelle. D'une certaine façon, et à sa manière, Princesse Mononoké tire cette sonnette d'alarme en montrant un personnage qui tient justement de la complexité, de l'hybridation, qui échappe à la catégorisation humain ou non-humain. En effet, la princesse Mononoké est certes irréductiblement humaine par son corps, mais tient à agir comme une louve, à imiter son comportement. Son mode de déplacement n'est donc pas proprement humain, et aucune de ses valeurs ou coutumes n'est humaine. Elle est un être hybride, entre la louve et l'humaine. Son existence en tant que telle est comme le symbole et le rappel de la complexité et de la plasticité du vivant, et de la façon dont il peut mettre à mal, court-circuiter certains de nos schèmes de pensée, et surtout nos rapports politiques avec les êtres vivants. Le monde désenchanté dont nous héritons n'est pas à attribuer à la science elle-même, mais aux choix politiques et idéologiques que nous avons fait dans l'interprétation de ce qu'est la science. Dans l'épisode précédent, nous avions montré qu'à cause du régime capitaliste extractiviste contemporain, des transports à grande vitesse, du sentiment de déracinement dont beaucoup de jeunes actifs souffrent, et d'une compréhension du monde vivant souvent pauvre et qui peine à s'adapter aux brusques mutations de nos écosystèmes sous l'effet du changement climatique, notre rapport au paysage et à la nature en général tendait à devenir plus désincarné, purement récréatif. S'ensuit donc ce rapport désenchanté et désanimé au monde qui nous entoure, dans lequel nous semblons ignorer la proximité du vivant. Avons-nous seulement conscience, par exemple, que Londres est peuplée de plus de 10 000 renards qui la parcourent quotidiennement? Avons-nous conscience du nombre de populations animales qui se voient obligées de quitter leur habitat originel parce que progressivement détruits ou transformés? Cette relative invisibilisation du vivant, surtout pour les populations urbaines, nous a conduit à une certaine incapacité à anticiper et contrôler ces diverses manifestations soudaines qui ont résulté en des crises de grande ampleur. Depuis la pandémie de Covid-19, l'on sait que le risque d'épidémie de zoonose, des maladies d'origine animale, augmentera dans les années à venir, les animaux se rapprochant sans cesse des foyers de peuplement humains. Autre exemple de crise symptomatique de notre difficulté à appréhender les changements brusques des environnements et des foyers de peuplement animal, la crise du loup en France, qui touche les éleveurs dans les Hautes-Alpes, en Lozère et dans les Pyrénées. La réapparition du loup dans les Alpes françaises en 1992, après qu'il y a été décimé au début du XXe siècle, a provoqué de vives réactions. Certains chasseurs et éleveurs parlant alors d'une réintroduction artificielle dans le parc du Mercantour. Cette prétendue réintroduction n'a en vérité jamais eu lieu. Les preuves scientifiques, notamment génétiques, qui prouvent que le loup est remonté naturellement des Alpes par l'Italie, étant nombreuses et de poids. Une des raisons qui peut expliquer que cette idée reçue soit aussi persistante est notre difficulté à intégrer la rapidité des mouvements de population animale et avec ça notre capacité à les reconnaître et à les identifier. Par conséquent, c'est non seulement notre sensibilité aux autres vivants qui est en crise, mais encore notre capacité à adapter notre regard sur eux, alors que, de manière générale, le changement climatique entraînera davantage de changements dans leur comportement et leur habitat. Ainsi, deux problèmes se superposent déjà. D'abord, une certaine méconnaissance dans un certain nombre de milieux du monde vivant et des écosystèmes naturels. Deuxièmement, le fait que cette connaissance même peine, pour la majorité, à s'actualiser avec tous les changements et bouleversements écosystémiques qui ont lieu actuellement. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé ensemble de solastalgie, un terme qui qualifie le sentiment de détresse psychologique face aux bouleversements que connaissent nos paysages et nos écosystèmes, tels que la fonte des glaciers ou l'assèchement des lacs. La solastalgie, c'est un peu l'affect de l'Anthropocène, ou comme certains l'appellent, du Capitalocène, cette nouvelle ère géologique postulée et qui aurait débuté avec les premiers essais nucléaires. Le philosophe contemporain Baptiste Morisot, que nous avons déjà évoqué précédemment, fait de la solastalgie l'affect caractéristique de la société contemporaine, submergée qu'elle est par le rythme des changements qu'elle a précipités. Nos relations au monde vivant sont aujourd'hui complètement déstabilisées, ainsi que le montre la pandémie, la crise du loup, l'arrivée inopinée en Occident de certaines espèces qu'on croyait circonscrites au continent asiatique, les hybridations d'espèces imprévues, etc. Pourtant, nous dit Morisot, il ne s'agit pas seulement d'un affect négatif, mais la solastalgie peut également être un affect positif. Parce que le monde vivant et naturel tel que nous l'avons un jour connu se métamorphose à grande vitesse, la détresse psychologique se double en même temps du sentiment de l'inconnu, de l'inexploré, et donc d'une curiosité renouvelée à l'égard du monde vivant qui se transforme. Morisot nous invite à saisir une opportunité unique dans notre histoire. Réactualiser notre connaissance, notre sensibilité et nos relations au monde vivant, en même temps que celui-ci mute. En effet, il est manifeste que nos relations au vivant sont encore soit militarisées, soit complètement fantasmées et idéalisées. La gestion de la crise du loup est un cas d'école. D'un côté, les anti-loups et éleveurs, dans un désarroi souvent bien légitime, préconisent des formes d'expédition vengeresse et informelle face à l'augmentation de la population lupine, et qui peuvent résulter en des images choquantes, comme celle de cette louve pendue en 2020 devant la mairie du village alpin de Saint-Bonnet-en-Champsaur. D'un autre, un certain nombre de pro-loups souffrent parfois d'une image mythifiante ou idéalisante du loup, du sauvage ou de la nature, qui les empêche tout à la fois d'entendre la souffrance des éleveurs et surtout d'envisager une cohabitation réelle et structurée avec le loup bien compris et bien anticipé. Il est symptomatique de la pauvreté de nos relations avec le vivant, selon Morisot, que nous ne soyons capables d'envisager que la guerre ou une sorte de mythification souvent anthropomorphique et déconnectée de la réalité. Nous ne savons en somme que sacraliser, c'est-à-dire vénérer de loin, ou profaner, exploiter. Et nous avons tendance à penser que toutes les cosmologies en dehors de la nôtre, comme l'animisme représenté dans Mononoke, ne font que sacraliser naïvement la nature. Or, il y a toute une échelle de relations possibles avec le vivant et qui ne relève pas de ces deux registres absolutistes, et il est vraisemblable que ces cosmologies l'aient beaucoup mieux compris que nous. Le problème est là, nous manquons d'une façon d'envisager le vivant qui ne soit pas caricaturale, qui ne fasse pas du monde vivant ni le lieu d'une sorte de guerre de tous contre tous permanente, ni un réservoir de ressources, ni un monde mystique et New Age où les animaux seraient tous dotés d'une âme et où les plantes pourraient comprendre la musique classique, comme l'avaient prétendu certains ouvrages pseudo-scientifiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons ensemble la piste envisagée par Baptiste Morisot pour transformer, enrichir et nuancer nos relations avec le vivant. De nouvelles formes de compréhension différenciées du vivant, et avec ça une forme de diplomatie et de politique. Vous écoutez Les Va-nu-pieds, et dans cet épisode un peu spécial, nous parlerons de la philosophie du vivant de Baptiste Morisot. I don't know life and death, wait until nobody is left, save the date in your diary. Out of touch, out of my depth, you held a mirror to my breath. There's a glimmer of hope, yeah. En Occident, notre modèle cosmologique est fondé sur une certaine conception des sciences à leur émergence. Il s'agit en quelque sorte de ce que Morisot appelle le folklore des sciences modernes, c'est-à-dire tous les concepts, visions, imaginaires et interprétations du monde qui sont charriés par la science mathématique, physique et expérimentale depuis son explosion au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Il faut comprendre qu'il y a une vraie différence entre la pratique des sciences et la vision du monde qui peut en découler ou non, entre la science comme mode d'explication de ce qui nous entoure et la science comme discours sur la nature du monde, comme cosmologie, comme idéologie qui entoure cette pratique. Pratiquer les sciences et user des méthodes scientifiques, expérimentales, n'implique pas forcément de prétendre comprendre la nature de ce qui est expliqué. C'est la différence entre la science comme paradigme méthodologique, c'est-à-dire comme modèle de compréhension des lois qui régissent le monde, et la science comme paradigme ontologique, c'est-à-dire comme discours prétendant avoir le dernier mot sur la nature du monde, dire ce qu'est le monde en soi, indépendamment de nous. Le fait que nous connaissions le monde en usant de l'idée de causalité, de mécanisme, ne signifie pas pour autant que toute la nature puisse se réduire à une gigantesque machine. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous utilisons l'idée de mécanisme pour comprendre la nature que la nature est, en soi, une machine. C'est un modèle de compréhension adapté à notre manière d'appréhender le monde, et non une affirmation sur la nature du monde. Pour le dire encore autrement, c'est comme si nous portions des lunettes qui nous font voir le monde d'une certaine façon, sans pour autant que cela veuille dire que le monde est véritablement tel que nous le voyons à travers ses lunettes. Les discours qui prétendaient connaître la nature ultime du monde et des phénomènes ont leur donné autrefois le nom de métaphysique, qui se voulait être la science de ce qui est au-delà du monde physique, des fins dernières, de l'origine et des vérités premières. Donc, notre vision de la science, notre façon de considérer la science, est en fait traversée de métaphysique, de discours qui portent en réalité sur la nature du monde. Lorsque le célèbre mathématicien Galilée déclare en 1623 dans son ouvrage L'Essayeur que l'univers est un livre écrit dans la langue mathématique, il semble par exemple déplacer les mathématiques du modèle méthodologique au modèle ontologique, du modèle de compréhension au modèle portant sur la nature du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les mathématiques soient le meilleur moyen dont nous disposons pour comprendre le monde, c'est encore la façon même dont le monde fonctionne, la façon dont il est tramé et écrit. Or, ce passage de la pratique scientifique à l'idée d'un monde qui soit réductible entièrement à la physique et aux mathématiques, par exemple, n'est pas en soi justifié. Ce type d'interprétation de la science, on les appelle réductionnistes, parce qu'elles prétendent réduire chaque science à une autre, comme dans une poupée russe. La logique qui explique les mathématiques, qui explique la physique, qui explique la biologie, qui explique la sociologie, et la science la plus fondamentale, non seulement dit le dernier mot de l'univers, mais dit également le dernier mot de toutes les sciences. L'esprit est naturellement séduit par l'idée de pouvoir rendre raison de tout par une simple formule mathématique, de pouvoir faire tenir ensemble la physique quantique et la physique classique, par exemple, et par là de concevoir avec justesse la façon dont roule la grande horlogerie du monde. Certains titres de films, comme le film consacré au physicien Stephen Hawking, The Theory of Everything, littéralement la théorie de tout, trahissent bien cet imaginaire. Mais ces théories unificatrices sont à l'heure actuelle indisponibles, et interpréter la science sur ce modèle ne va pas de soi. Ce folklore à tendance réductionniste des sciences modernes, Baptiste Morisot l'appelle « galiléo-cartésiano-béconien », un adjectif extrêmement barbare renvoyant à Galilée, à Descartes et à Bacon. Pour faire simple, si Galilée défend la mathématisation du monde, l'univers est un livre écrit en langue mathématique, Descartes défend, lui, sa mécanisation. C'est notamment à lui qu'on doit la thèse des animaux-machines, dont il défend l'idée dans le discours de la méthode. Bacon, quant à lui, est le fondateur du modèle expérimental dans les sciences physiques. La spécificité de notre folklore scientifique, c'est de se croire être le dernier mot du monde, de se penser comme une sortie radicale de toutes les pensées métaphysiques infondées. Si toute grande philosophie s'est un jour pensée comme le dernier mot de la philosophie, la science elle-même s'est progressivement pensée comme la sortie de la philosophie, la fin de toutes les interprétations du monde. Le scientisme donc, ce n'est pas l'attitude qui consiste à dire que la pratique scientifique est le meilleur modèle d'intelligibilité du monde dont nous disposons à l'heure actuelle, ceci est plus ou moins admis par un certain nombre de gens. C'est plutôt l'attitude qui consiste à dire que la science a toujours été vierge de toute forme de croyance et de présupposition, a constitué donc sans recul la science en tant que théorie dogmatique sur la nature du monde. À travers notre façon de voir la science, nous dit Morisot, le monde devient de la nature, un ensemble homogène qui obéirait aux mêmes lois mécaniques. La nature est une sorte de totalité, de généralité englobante, qui ne tient pas compte de la spécificité des êtres vivants qui y sont. Tout devient de la nature, comme le paysage devient du décor ou du papier peint. Pour les dire dans les mots de Morisot dans son ouvrage L'Inexploré, publié en 2023, voici tout le folklore des sciences modernes selon lui. La nature est d'un seul tissu et d'une seule texture. Ce tissu est écrit dans un langage mathématique. Il est dépourvu d'intériorité, jusqu'à preuve du contraire. Il est dépourvu de relations avec les autres éléments du cosmos, c'est-à-dire qu'il est dépourvu d'influences invisibles, jusqu'à preuve du contraire. Il est fait de la même matière que vous, mais cette matière est sans dedans. Et cette matière, en tant qu'elle est matière, ne mérite pas d'égard. Cette transformation de la nature en tissu homogène n'est pas, en soi, un résultat scientifique, un résultat expérimental. Ce n'est que l'imaginaire que nous avons de la science. Morisot, comme d'autres avant lui, propose un modèle du vivant, lui, qui ne soit pas réductionniste, c'est-à-dire qu'il ne réduise pas le vivant à de la matière ou à des seuls phénomènes causaux et mécaniques. En philosophie, on appelle ce type de modèle des modèles vitalistes, qui reconnaissent la spécificité de la vie, du vivant, à l'égard de la matière. Ce type de modèle pose donc que la biologie en tant que science est une discipline spécifique, différente, distincte de la physique et des mathématiques. Donc, ce n'est pas un modèle réductionniste, qui prétendrait au contraire que les mathématiques expliquent la physique qui viennent expliquer la biologie. En cela, les modèles dits vitalistes entrent en tension avec les modèles mécanicistes et réductionnistes. Par exemple celui du médecin russe Ivan Pavlov. Pavlov proposait un modèle de compréhension du comportement animal de type réductionniste, grâce à sa théorie du réflexe conditionné. La plus célèbre expérience de Pavlov, qu'on connaît toujours sous le nom des chiens de Pavlov, montre comment le vivant est capable d'apprendre sur un modèle strictement mécanique. Pavlov provoque un réflexe dit conditionné chez les chiens en l'associant à un réflexe inconditionnel. Ainsi, les chiens salivent toujours lorsqu'ils voient de la nourriture. C'est un réflexe inconditionnel, universel. Si on associe systématiquement un autre stimulus neutre à la présence de nourriture, par exemple le son d'une cloche avec laquelle vous appelez vos chiens pour qu'ils viennent manger, au bout d'un moment, le processus de salivation sera provoqué directement par le son de la cloche et non par la vue de la nourriture. Ainsi, un stimulus inconditionnel, le fait de saliver en voyant de la nourriture, a changé le sens d'un stimulus neutre, c'est-à-dire le son de la cloche. Pavlov peut ainsi rendre compte de la mémoire, de l'apprentissage et de l'apparente spontanéité du vivant par un modèle strictement causal mécaniste, que l'on retient encore aujourd'hui pour le dressage ou le traitement des allergies, voire de certains traumatismes. Il est pourtant intéressant de noter que les résultats des expériences de Pavlov ne doivent pas nécessairement nous conduire à une interprétation mécaniciste ou réductionniste du vivant. Encore une fois, si son modèle explicatif fonctionne dans certains cas et réussit donc à expliquer une part du comportement animal, cela ne nous permet pas de conclure du vivant qu'il n'est effectivement qu'une machine complexe. Ainsi, il faut noter que pour certains théoriciens et psychologues du XXe siècle, comme le psychologue Erwin Strauss, le modèle de Pavlov ne rend pas compte de la motricité, du mouvement spontané, qui est une des caractéristiques des animaux sentants. Il faut réintroduire un caractère actif au comportement animal. L'animal agit et ne réagit pas, c'est-à-dire que l'animal évolue dans un milieu selon ce qui est attrayant ou aversif pour lui. L'ensemble des vivants, pour le dire autrement, se comportent, c'est-à-dire qu'ils agissent d'une certaine façon selon les informations qu'ils reconnaissent dans leur milieu et selon leur structure corporelle, et non seulement parce qu'ils réagissent bêtement à des stimuli comme une pierre tomberait sous l'effet de la gravité. Le vivant est fait de multiples manières de se comporter, nous dit Morisot, ou pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages, il y a de nombreuses manières d'être vivant. Cela signifie notamment, pose Morisot dans L'Inexploré, que le vivant se définit par sa capacité d'interprétation. C'est ce qu'on appelle le courant biosémiotique en biologie. Tout être vivant est une interface avec un milieu qui l'interprète selon son corps. Interpréter, c'est considérer des choses comme ayant un certain sens, une certaine attractivité ou répulsivité dans son milieu. L'interprétation n'a pas besoin d'être un processus conscient ou intentionnel pour caractériser le vivant. À nouveau, il ne s'agit pas de conférer au vivant des caractéristiques humaines ou une âme. Le milieu de l'être vivant se donne déjà comme interprété en vertu de son corps spécifique, de sa perspective sur le monde. Le corps vivant est déjà une gigantesque machine à interpréter le monde. Au XXe siècle, le biologiste Jacob von Uexküll, précurseur du courant biosémiotique, dans un livre intitulé « Milieu animal et milieu humain », définissait le milieu de l'être vivant comme chargé de sens. Par exemple, le milieu de la chauve-souris est un monde qui ne ressemble pas du tout au monde que nous percevons, nous, êtres humains. Non seulement parce que la chauve-souris ne perçoit effectivement pas comme nous, mais aussi pour la simple et bonne raison que la chauve-souris n'accorde pas la même valeur utilitaire à ce qu'elle perçoit dans son environnement. Tout milieu est spécifique aux besoins, aux appétits et aux perceptions de l'animal correspondant. C'est en ce sens que tout le vivant interprète, selon Morisot. Tout ce qui se trouve dans le milieu d'un être prend un certain sens, une certaine valeur pour lui. Cela permet de réintroduire dans notre vision du vivant une dimension active, de ne pas considérer les êtres vivants comme de simples machines très complexes. Le concept de causalité ou de machine a en effet tendance, selon Morisot, à désanimer le vivant. C'est-à-dire à lui retirer ce qui, précisément, le rend vivant. Toute cause produit un effet, lequel est entièrement contenu dans, déterminé par, sa cause. Ceci rend l'effet par nature passif, car il ne pourrait exister sans sa cause. On en déduit qu'il ne fait que réagir à cette cause. Or, le vivant n'est précisément pas seulement l'effet de son milieu, comme on pourrait dire que la pierre qui tombe le fait sous l'effet de la gravité. Car la caractéristique du vivant est de recevoir les informations pertinentes à son évolution et à sa survie, y compris quand il ne le fait pas de manière intentionnelle, et d'agir en fonction. Nous avons tendance à croire qu'agir se limite aux êtres humains, lesquels agissent intentionnellement, en ayant des motifs dont ils peuvent rendre raison. Or, c'est une conception très limitée du domaine de l'action. Il y a action dès lors qu'il y a tri, interprétation, sélection des informations pertinentes et réponses appropriées contextuelles. Et le vivant peut recevoir certaines de ces informations d'une manière que nous peinons parfois encore à comprendre. Par exemple, un certain nombre de plantes réagissent aux anesthésiques. Et certaines réagissent à certains sons. Mais comme le dit Morisot dans L'Inexploré, le livre de pseudosciences La vie secrète des plantes dans les années 1970 est malheureusement allé jusqu'à prétendre que les plantes étaient sensibles à la musique classique. Ce qui est évidemment faux. De la même manière, certains pseudo-arguments utilisés contre le végétarisme font état par mauvaise foi de la sensibilité des plantes à la douleur. Toutefois, en dépit de ces excès, certaines expériences ont effectivement démontré qu'on peut difficilement questionner que les plantes semblent réagir à certains sons, et se montrent donc sentantes. Et ce, bien que nous soyons incertains de la façon dont elles entendent. Morisot cite la biologiste Lilac Adani, qui a mené une expérience fascinante sur une espèce de plante, l'onagre vivace. L'onagre vivace s'ouvre chaque soir, et son nectar intéresse particulièrement les papillons de nuit qui ont un battement d'ailes très caractéristique. Elle et son équipe ont ainsi montré que les deux espèces ont noué une relation de coopération très complexe. Ils ont exposé les spécimens, d'onagre vivace, au son enregistré du battement d'ailes des papillons de nuit. Ils ont constaté que les onagres qui entendent ces battements produisent un nectar plus sucré, utile pour fidéliser les papillons, que celles qui n'y étaient pas exposées. Une autre expérience sur les plantes, citée par Morisot et menée par la chercheuse Monica Gagliano, démontre elle que les racines de certains végétaux s'orientent vers le bruit des rivières. De la même façon, et d'une manière que les biologistes ne savent pas encore tout à fait expliquer, les végétaux semblent entendre ou réagir à certains sons. Tout ceci montre que le vivant est pourvu d'un monde perçu par la perspective de son corps, lequel ne nous est souvent pas accessible. À côté de la biosémiotique, dont nous venons de parler, et qui postule que le vivant interprète ou comprend à sa manière, Morisot s'intéresse aussi à certaines branches de biologie plus subversives, c'est-à-dire qui sortent un peu des sentiers battus par rapport à l'approche majoritaire héritée de Darwin. Dans la conception la plus classique de l'évolution, les caractères les plus avantageux à la survie sont distribués aléatoirement, puis sélectionnés par le milieu. C'est l'exemple classique du cou de la girafe. Les girafes qui avaient la chance de naître avec un grand cou étaient plus à même de survivre car plus à même d'aller chercher leur nourriture en hauteur. Le principe de la théorie de Darwin et d'éliminer toute tendance à prêter de l'intentionnalité ou une finalité dans l'évolution, par exemple en disant « les girafes ont développé un grand cou pour aller chercher des feuilles en hauteur ». Toutefois, en parallèle de cette approche très efficace, plusieurs constats ont amené la biologie à devoir complémenter cette hypothèse. Le premier, et qui commence à être connu, est le rôle de l'épigénétique, qui montre comment, et dans une certaine mesure, certains comportements animaux peuvent venir modifier l'expression des gènes sur plusieurs générations sans pour autant altérer les gènes eux-mêmes. Autrement dit, des comportements acquis, des caractères acquis par l'expérience au cours de la vie pourraient se transmettre d'un individu à l'autre sur plusieurs générations. Le second constat plus intéressant est celui de l'exaptation. L'exaptation est un changement d'usage d'un organe autrefois sélectionné pour une autre fonction. Par exemple, Baptiste Morisot évoque le héron noir africain qui déplace l'usage de ses longues plumes, qui ont été sélectionnées pour le vol, afin de les exploiter pour faire de l'ombre sur les cours d'eau et ainsi repérer ses proies. Certains escargots se servent de l'espace libre dans leur coquille, à l'origine non prévu à cet effet, pour y placer leurs œufs. L'exaptation, c'est la réexploitation, à d'autres fins, de fonctions qui avaient des usages jusqu'ici différents. À nouveau, sans introduire d'intentionnalité dans le vivant, l'exaptation montre que le vivant est pourtant plastique, et surtout que plus il est déterminé, c'est-à-dire riche en fonctions complexes, en spécificités organiques, et plus il est plastique. C'est la surdétermination des vivants les plus complexes le fait qu'ils disposent de beaucoup d'organes, de facultés ou de fonctions organiques, qui rend ceci en apparence beaucoup plus spontané et inventif. Morisot ira jusqu'à dire que tous les vivants disposent de ce qu'il appelle une réserve exaptative, c'est-à-dire de la possibilité de transformer les usages de certains organes, et ce sans modification de leur phénotype, de leur gène ou de leur morphologie. En un sens, c'est déjà le cas de nos mains et de nos pouces opposables. Ce qui a autrefois servi à s'accrocher aux branches des arbres sert maintenant d'autres fins de préhension. Pour résumer donc, être vivant est une manière d'interpréter et d'interagir avec son milieu chaque fois unique. Deuxième point, les vivants s'échangent des informations qu'ils arrivent à décrypter selon leur corps et la façon dont ils perçoivent leur milieu, et ce sans conscience ou volonté ou intention d'échanger. Troisième point, l'organisme vivant n'est donc pas une machine. Et enfin, le vivant peut, dans une certaine mesure, subvertir les usages de ses fonctions organiques en les réattribuant, en leur assignant un nouveau sens. Dans la quatrième partie de l'inexploré, Morisot en tire la conclusion suivante. Si les êtres vivants nouent entre eux des relations complexes qui ne se limitent pas à des relations d'hostilité et de prédation, alors les êtres humains peuvent aussi imaginer d'autres relations avec les vivants qui relèvent de la diplomatie. À partir du moment où on a minimalement redonné une capacité d'action aux vivants, on peut rétablir des relations politiques, diplomatiques avec eux, en respectant pour chacun leurs spécificités et leurs modes d'action. Lorsque l'on pense à nouer des relations politiques avec les vivants, certains peuvent ressentir une répugnance à parler de politique pour les animaux. La politique est en effet soit l'art de la raison, du logos, soit au contraire beaucoup trop vile même pour être attribuée aux animaux. Comme nous l'avons dit en introduction, il n'y a lieu dans notre esprit que de sanctuariser ou d'exploiter, vision qui ressemble bien au traitement à l'américaine de la nature. D'immenses parcs nationaux qui avoisinent des piscines de béton, des autoroutes et des attractions. Dans son film récent Le règne animal, le réalisateur Thomas Caillet imagine un monde où les êtres humains sont confrontés à une pandémie de mutations animales. Un père et son fils, incarnés par Romain Duris et Paul Kircher, sont confrontés directement à cette mutation, puisque le fils, comme sa mère, se transforme progressivement en loup. La société se montre incapable de réagir correctement à ce défi. Elle préfère enfermer, cacher, voire éliminer ces mutations, qu'elle considère comme une menace directe. Le film est donc une représentation fidèle de notre incapacité à envisager des modèles relationnels avec le vivant qui ne soient ni militarisés, ni ignorés, ni sanctuarisés. Pour Morisot, il est urgent d'envisager des égards ajustés ou des relations dites éthopolitiques, du terme éthos qui signifie en grec le comportement, la manière d'être. Donc des relations qui seraient spécifiques à l'être vivant dont il est question pour sa protection et la gestion de nos territoires partagés avec lui. C'est pourquoi Morisot parle de diplomatie ou de conflit d'usage avec les loups, par exemple. Nous n'avons pas besoin que les animaux disposent de signes ou de modes de compréhension intentionnels pour nous faire comprendre d'eux et communiquer nos intentions. Ce dont nous avons besoin, en revanche, c'est de s'assurer de trouver les moyens de nous faire comprendre d'eux, ce qui implique l'usage des savoirs éthologiques et biologiques pour se mettre à leur place. Les autres êtres vivants trouvent déjà des moyens de se comprendre, chacun à leur manière, en envoyant des signaux. Les gazelles les plus farouches signalent à leurs prédateurs qu'elles sont trop rapides pour eux. Les nuées d'oiseaux fonctionnent aussi sur des foules de micro-communications dont les modèles mathématiques peinent à rendre la complexité. La compréhension et l'interprétation, nous l'avons dit, ne sont pas des caractéristiques réservées à qui dispose d'une intentionnalité ou d'un cerveau extrêmement développé. Les êtres vivants entrent dans des dynamiques co-évolutives, y compris lorsqu'ils sont dans des relations de prédation. Car la prédation elle-même n'est pas la guerre ou la destruction dans le vivant. La prédation est une relation de codépendance, les prédateurs ayant besoin des proies pour se nourrir et d'une certaine manière, les proies des prédateurs pour évoluer. L'on dit souvent que l'humain est le plus grand prédateur, mais précisément, quel prédateur détruirait complètement sa source potentielle de nourriture, qu'elle soit végétale ou animale, d'habitat, etc. Si le vivant était effectivement notre proie, c'est que nous nous reconnaîtrions dans le même temps dépendant de lui. Or, notre comportement à son égard prouve plutôt l'inverse. Pour montrer que les relations entre êtres vivants sont déjà complexes et toujours circonstancielles, Morisot évoque par exemple la gamme des relations possibles entre les meutes de loups et les meutes de coyotes aux États-Unis. Les loups et les coyotes entrent parfois effectivement en conflit d'usage, en compétition sur leur territoire. Dans d'autres cas, il y a au contraire des alliances ou des respects mutuels de leur part de territoire. Cela peut aller jusqu'aux alliances matrimoniales, puisqu'une nouvelle espèce hybride et féconde, le coy wolf, a fait son apparition. Sans aller jusqu'à dire évidemment que nous allons entrer en alliance matrimoniale avec le vivant, il est toutefois également évident qu'une palette d'autres relations politiques est possible entre, d'un côté, la destruction totale et de l'autre, la sanctuarisation. Ceci revient à ne pas considérer par défaut qu'un vivant ne peut comprendre que le fusil ou une paix de surface qui revient en fait au mythique ou à l'indifférence. Aujourd'hui, les relations avec le vivant sont en crise, parce que le vivant change à une vitesse inégalée, se métamorphose. Nous sommes face à des tas de cas de princesse Mononoké, d'hybrides rétifs à la catégorisation, à la compréhension, selon Morisot. Le coy wolf en fait partie. Le pisli, hybridation féconde de l'ours blanc et du grizzly, en fait également partie. Nos relations avec le vivant et avec ce qu'on pensait savoir de lui traversent une phase de déstabilisation, et il faut alors les repenser. Ce qui est intéressant dans le travail de Morisot, c'est qu'il montre que cela vaut pour nous, dans notre cosmologie naturaliste, mais aussi pour les peuples animistes, lesquels sont perturbés dans leurs habitudes de chasse ou d'observation par le comportement inédit d'espèces comme les coy wolves ou le pisli. L'épistée requiert en effet l'acquisition de nouveaux savoirs. Les concepts dont chacun disposait sont amenés à se renouveler. Et si nous nous trouvions, avec ces cosmologies dont nous ne percevions que les différences, dans des situations d'alliance inattendue, nous dit Morisot. Ce dernier invite notamment à imaginer les pratiques que nous pourrions emprunter aux animistes, mais aussi à la cosmologie analogiste de la Renaissance, pour comprendre différemment les vivants aujourd'hui. L'objet n'est pas de changer nos méthodes scientifiques, basées sur la réfutation et la vérification, sur l'administration de preuves. Toutefois, sans changer la méthode expérimentale, la méthode scientifique, nous pourrions nous inspirer des cosmologies animistes et analogistes pour nous permettre de poser des questions différentes selon un autre point de vue et d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. C'est ce qu'explique Morisot. Si des chercheurs en botanique comme Lilac Haddack que nous avons cité sur l'expérience de l'onacre vivace ne s'étaient pas imaginé ce que c'était d'être à la place d'une plante, d'être dans la perspective d'une plante, de ce que pourrait être pour une plante quelque chose qui relève de l'acte d'entendre, la découverte que certaines plantes réagissent au son des battements d'ailes de papillons n'aurait sans doute pas été pu faite. On ne pourrait pas comprendre le comportement de certaines meutes de loups si l'on ne faisait pas usage de la notion de caractère, certaines ayant des comportements de compétition voire de xénophobie, et d'autres non. Et ce comportement ne s'explique pas seulement par les ressources à disposition sur le territoire. De la même façon, le mode de pensée analogiste, qui postule que tout fonctionne secrètement de concert dans l'univers, n'est pas dépourvu d'intérêt spéculatif pour un écologue qui étudie les écosystèmes comme des complexes organisés, comme des touts. En d'autres termes, s'inspirer d'autres cosmologies, ce n'est pas changer les méthodes scientifiques, mais c'est agrandir le spectre des impulsions, des questionnements, des curiosités qui nourrissent ces recherches à la source. L'idée est donc précisément de ne plus exclure certains questionnements par défaut parce qu'on les juge triviaux ou ridicules. Le fait même de considérer qu'il est ridicule d'écrire un titre comme « Penser comme un arbre », par exemple, en dit en fait plus long sur nous et sur notre propre système de pensée inquestionné que sur cette affirmation elle-même. Dans une tribune intitulée « Pleurnicher le vivant » publiée en 2021 sur son blog « La pompe à finances du monde diplomatique », l'économiste et philosophe Frédéric Lordon s'insurge contre le type de littérature des collections « Monde sauvage », qui invite donc par exemple à penser comme un chêne, habiter en oiseau, etc. pour les raisons que nous venons de voir. Ces collections sont publiées par ceux qu'il appelle les « Latouriens », sectateurs du philosophe des sciences Bruno Latour, dont fait partie Baptiste Morisot. Pour faire court, ces Latouriens seraient des bourgeois qui se donneraient bonne conscience en proposant de se resensibiliser au vivant plutôt que de lutter contre le capitalisme. Il argue notamment que les analyses de cette collection ont des tendances centristes et dépolitisantes. Mais est-ce vraiment le cas ? Avec tout le respect que je peux porter au travail de Frédéric Lordon, cette tribune me semble premièrement essentialiser les différents membres de ces collections en les réduisant à un ensemble homogène de chercheurs qui, pour faire simple, ne seraient pas anticapitalistes. Et cette affirmation est basée sur des propos des philosophes Roger Paul Droit et Pierre Charbonnier, qui, en l'occurrence, ne publient même pas dans ces collections. À moins donc de faire de la culpabilité par association, la condamnation de Lordon me semble précipitée et infondée. L'affirmation d'une pseudo-connivence des auteurs de cette collection avec le capitalisme me semble discutable ou à étayer plus en profondeur avec des citations des ouvrages correspondants. Morisot déclare à titre d'exemple dans tous ses ouvrages que les crises que nous traversons sont au nombre de trois, et parmi elles, il cite la crise du système productiviste et extractiviste dans son ensemble. Simplement, ce n'est pas l'objet qu'il souhaite traiter. L'objet des livres de Morisot est complémentaire, solidaire de la critique du système productiviste. Et cet objet, c'est la crise de notre sensibilité au monde non humain. De ce point de vue, ce que dit Lordon peut vaguement ressembler à un procès d'intention ou à des attaques ad hominem qui peinent à critiquer le fond de cette littérature, voire pire, une mécompréhension du principe de la convergence des luttes et des critiques. D'autre part, cette littérature prétend elle aussi jouer un rôle à l'échelle collective. Il est bien question de réformer la sensibilité, non pas pour soi dans son coin, mais pour l'ensemble de notre société et de ses relations envers le vivant. C'est l'objet du travail de vulgarisation. Prendre à bras le corps la question de la sensibilité, c'est s'interroger sur la condition même de possibilité de l'action politique. Se questionner sur notre sensibilité au monde vivant, c'est poser des bases pour établir d'autres modèles relationnels. Ce qui me semble être l'un des objets premiers de la politique, comment faire citer en commun. Au fond, continuer à s'attaquer à ceux qui parlent de révolution des sens, par exemple, c'est toujours s'obstiner à ne pas comprendre l'importance de ces formes d'éducation. C'est toujours considérer que l'éducation de la sensibilité, c'est une forme de sensiblerie romantique, une question bourgeoise et sans importance, alors qu'elle est pourtant au fondement de nos manières d'agir. C'est continuer à mépriser les formes certes ordinaires et pourtant fondamentales du soin et du sensible qui parcourent nos vies. À titre personnel et pour ceux qui m'engagent, je vous recommande donc les lectures des collections Monde Sauvage, dont fait partie Baptiste Morisot. Et ce, en plus des lectures anticapitalistes de bon aloi, qu'il est évidemment bon d'avoir dans sa bibliothèque, les ouvrages révolutionnaires de Frédéric Lordon compris. C'était Ben pour les Vanupiers et je vous salue.